Bonjour et bienvenue sur Parole d'Humanitaire, le podcast fait par l'humanitaire pour les travailleurs et travailleuses humanitaires. Je suis Asma, humanitaire spécialisée en projet d'aide au développement et à l'origine de cette initiative. Dans ce podcast, je donnerai la parole aux acteurs et actrices de terrain pour décrypter les nombreux enjeux de l'humanitaire et de la solidarité internationale, mais aussi pour découvrir les différents domaines d'intervention. Au fil des épisodes, je mettrai également la lumière sur les environnements dans lesquels ils sont amenés à travailler et les défis auxquels ils sont quotidiennement confrontés grâce à des témoignages sans filtre. En bonus, vous aurez la possibilité de découvrir différents métiers liés à ces domaines. Au programme de ce podcast, découverte, partage de connaissances et retour d'expérience. Prêt à passer les prochaines minutes ensemble? C'est parti! Bonjour Laurie, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour participer à ce nouvel épisode du podcast Parole d'Humanitaire. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter et nous en dire plus sur ton parcours et ton domaine d'expertise?
Bonjour Asma, alors merci à toi pour l'invitation. Donc je suis Laurie, j'ai commencé ma carrière professionnelle, on va dire, en étant intervenante sociale. J'ai travaillé sur les maraudes de nuit, en rue. J'ai beaucoup travaillé auprès des demandeurs d'asile, dans des centres d'accueil pour demandeurs d'asile et dans des hébergements d'urgence pour demandeurs d'asile. Et ensuite, j'ai décidé donc de m'intéresser davantage à l'humanitaire en partant vivre à l'étranger pendant quelques mois. Et donc, j'ai passé un master de manager de programme. Et ensuite, du coup, j'ai exercé au sein d'associations et au sein d'ONG en tant que responsable de programme humanitaire.
Merci beaucoup pour cette introduction, Laurie. Et pour du coup parler de la thématique du jour qui concerne la crise migratoire, au-delà des chiffres, que signifie réellement la crise migratoire et quels enjeux cela met en lumière?
La crise migratoire, elle met en avant deux axes, qui est d'abord le fait que, en effet, les flux migratoires sont exceptionnellement importants ces dernières années, qu'il y a eu en effet des crises majeures avec des millions de personnes déplacées et les besoins des populations déplacées et des besoins humanitaires sont vraiment conséquents avec les exemples très récents, mais le Soudan, le Congo ou la Palestine qui dernièrement ont créé des situations vraiment alarmantes et donc qui pour moi font partie de ces crises migratoires parce qu'elles ont nécessité des déplacements de population conséquents, mais aussi tout ce qui est lié aux fortes tensions qui est lié à la migration, en fait, aujourd'hui. Pour moi, il y a vraiment deux axes un peu distincts. L'idée des personnes déplacées, c'est vraiment qu'il y a une majorité quand même des déplacements qui sont en interne vers les pays voisins, et que je pense que c'est important de le rappeler, parce que dans l'imaginaire des gens aujourd'hui, je pense qu'il y a une idée préconçue qui laisse penser que les gens se déplacent majoritairement vers notamment l'Europe et les pays dits développés, alors que la majorité des gens se déplacent en interne et vers les pays voisins et qu'on le voit constamment, notamment au Liban, parce qu'il y a les réfugiés palestiniens et syriens. Moi, j'ai pu le voir du coup au Liban, puisque j'ai travaillé sur des camps, mais j'ai pu le voir aussi au Kenya, là où j'ai aussi eu une expérience où il y a des camps notamment de Somaliens très très importants, et qu'en fait, faute de ressources, peu importe lesquelles, les gens se déplacent là où c'est le plus proche et vraiment dans une nécessité de se mettre en sécurité. Et ensuite, là où ça rejoint un peu l'idée des fortes tensions liées aux migrations, c'est qu'en effet, il y a quand même une augmentation des personnes déplacées dans les pays, notamment européens, et que ça devient un combat un peu politique, et que c'est là tout l'enjeu de la crise. Ça reste malgré tout des personnes qui sont en déplacement pour leur survie, que ce soit en effet parce qu'il y a des conflits, mais on oublie aussi, je pense, de dire qu'il y a les personnes qui se déplacent parce qu'elles ont des craintes personnelles. Aujourd'hui, en France, notamment dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, majoritairement, c'est des personnes qui ont des craintes personnelles du fait aux politiques, au genre, à leurs croyances, et qui sont obligées de fuir pour ces motifs. Donc je pense que la crise migratoire, elle est à double enjeu parce qu'il y a surtout une crise, selon moi, une crise de l'accueil et que c'est là que ça devient politique. Il y a une réelle crise de l'accueil des déplacés et ça, peu importe le pays, je pense. C'est-à-dire que les conditions de vie des personnes déplacées, elles sont catastrophiques, honnêtement. ce soit parce que elles sont dans une situation de grande précarité. Quand c'est des pays qui sont pauvres, les pays voisins qui sont pauvres n'ont pas les capacités d'accueillir. Donc, enfin, il y a un tas de camps de réfugiés sur lesquels c'est des centaines, voire des milliers de personnes qui vivent sous des tentes avec des accès à l'eau, des accès à l'alimentation qui sont très restreints. Ne parlons même pas de l'accès aux soins dans ces conditions-là. Donc, je pense que la crise, elle est là. C'est là qu'elle se situe. Et en France et en Europe, je pense que la crise est aussi là. L'accueil dans les pays européens laisse à désirer, malgré tout. Les systèmes d'accueil, ils sont inadaptés. Du coup, ils sont les trois quarts du temps inadaptés. Les délais administratifs de l'accueil, elles sont avec des délais interminables, qu'il y a une absence de coordination complète de la part des pays. Et que du coup, c'est ça qui rend la situation critique et qui
D'accord.
en fait une crise.
Bah, merci beaucoup, Laurie, pour toutes ces précisions. Tu as abordé un peu certains contextes, certaines causes qui amènent les gens à se déplacer. Et quelles sont, de façon, d'une manière globale, quels sont les principaux facteurs à l'origine des déplacements des populations, qu'ils soient forcés ou non forcés, que ce soit en lien avec la politique, l'économique, le climat aussi, par exemple?
C'est un peu plus compliqué parce que du coup, il y a un tas de raisons pour lesquelles les gens migrent et se déplacent. Ça peut être purement et simplement le travail, les études, là où du coup c'est en effet plutôt choisi. Ça reste, je pense, économique dans ce sens-là parce que beaucoup de personnes sont obligées aussi du coup de migrer pour des situations économiques parce qu'il n'y a pas forcément ce qu'il faut dans leur pays d'origine. Après, sur tout ce qui va être la migration subie, en effet, je pense qu'il y a quand même une recrudescence de gros conflits. On a pu le voir quand même sur ces dernières années, qu'il se soit des conflits internationaux ou des conflits internes. Ça laisse les populations dans une situation de très très grande vulnérabilité. Les catastrophes naturelles, je ne saurais pas moi personnellement la quantifier. Ça reste quand même factuellement quelque chose à prendre en considération parce que les climats dans certains pays font que les catastrophes naturelles, elles sont à répétition. Donc les gens, dès qu'il y a une catastrophe naturelle, ils se retrouvent dans des situations très inconfortables, encore une fois de grande précarité, et qu'ils ont à peine le temps de reconstruire, il y a de nouveau une catastrophe. Et je pense
D'accord.
qu'à terme, c'est aussi ce qui les contraint à partir. J'ai pas personnellement pas d'idée de ce que ça peut représenter, parce que dans tout ce que j'ai fait, en tout cas professionnellement, j'ai majoritairement été confrontée à des populations qui avaient dû se déplacer du fait de conflits ou de raisons de persécution personnelle. Et
D'accord.
je pense que ce motif est vraiment sous-estimé aussi. Il y a énormément de gens qui sont contraints de se déplacer juste parce que pour ce qu'ils sont et leurs conditions, en tant que personnes.
Bah, je te rejoins totalement sur ce que tu as pu dire et je voudrais aussi revenir sur un élément que tu as pu mettre en avant, notamment par rapport aux conditions d'accueil, par exemple. Bon, on a parlé des chiffres, on a parlé des raisons, mais quelles sont aujourd'hui les principales épreuves humaines et psychologiques que vivent des personnes migrantes tout au long de leur parcours? Parce que, encore une fois, on parle des chiffres, mais il faudrait peut-être aussi aborder cette crise-là sous un aspect un peu plus humain.
Oui, parce que c'est vrai que dans toute cette histoire de crise entre guillemets migratoire, il y a toujours ce côté politique, en effet, qui du coup met en avant juste le fait que il y a des arrivées massives, que on peut pas
Accueillir
tout
tout le monde.
prendre, que voilà, ça rend les choses compliquées, etc. On ne parle à aucun moment de ces personnes, elles deviennent juste un chiffre de la migration, pas une personne. Et humanitairement parlant, il y a tellement de besoins primaires à subvenir. Je pense que les ONG, elles font tout ce qu'elles peuvent pour mettre en avant ces personnes et ce public et sensibiliser à ces personnes en les personnifiant, parce que c'est important, mais qu'il y a quand même aussi tout ce travail de besoins primaires qui est tellement important qu'on en oublie de... Enfin, que parfois, du coup, c'est pas suffisamment mis en avant toute la violence. Toute cette violence physique et psychologique que ces personnes, elles ont subie, et pourtant, elles sont extrêmement nombreuses. Selon moi, tu vois, il y a vraiment toutes les violences déjà qui ont poussé à fuir. Enfin, ces personnes, ça n'a été que violence. C'est ce qui fait qu'elles ont été contraintes de se déplacer. Peu importe le motif, ça a été, il y a eu violence à un moment donné, que ce soit parce que si c'est climatique, elles ont tout perdu. C'est extrêmement violent. C'est la guerre, c'est la violence du conflit. Et si c'est parce que c'est leur personne, c'est la violence qu'on leur a fait subir, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Il y a toute la violence d'être du déplacement lui-même tu vois, la violence d'être déracinée de chez soi, en fait. Enfin, on peut finalement pas se rendre compte et on oublie de à quel point c'est violent de devoir quitter tout ce qu'on a toujours connu, ce qui a fait qu'avant c'était notre chez nous, toute notre construction. Et je sais pas si on peut se rendre compte, en tout cas on le ressentira sûrement jamais, mais ce côté rupture complète de ce qu'on était, de tout ce qui nous a construit. Après, il y a la violence du déplacement, parce que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est quand même qu'il y a un énorme business qui s'est construit autour des déplacements migratoires. Vraiment, tout est financier. Il faut payer des gens, il faut tout le temps payer quelqu'un pour pouvoir avoir accès à des documents, pour pouvoir avoir accès à un trajet, peu importe quel moyen de transport. Le coût financier que ça implique, c'est aussi très violent. La précarité dans laquelle ça les met, parce que les gens, quand ils partent, le peu d'argent qu'ils ont, eh ben, ils l'utilisent pour payer ce déplacement. C'est pour ça que les déplacements sont parfois juste dans le pays voisin, parce qu'en fait, on n'a pas les ressources financières nécessaires pour aller plus loin que ça, en fait. Et que c'est tellement devenu un business que c'est extrêmement cher de se déplacer. Et toutes les violences qu'on connaît aujourd'hui, malheureusement, qui sont les violences physiques et sexuelles subies sur les trajets, parce que quand on n'a pas suffisamment d'argent, eh ben, toutes ces personnes qui s'orchestrent autour, tous ces passeurs, eh ben, quand il n'y a pas d'argent, ils demandent d'autres choses. Voilà. Et que ça, c'est aussi une énorme violence physique comme psychologique, qui mettent les personnes dans des situations de fatigue extrême, physiquement et psychiquement. Et déjà là, ça, c'est les premières violences. Et ensuite, on arrive dans un pays dans lequel on n'est pas bien accueilli. On n'est pas le bienvenu en soi, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans beaucoup de pays, dans les trois quarts des pays, quand les gens se déplacent, que ce soit en masse ou individuellement, et souvent via les politiques de nos jours, toutes ces images montrées, utilisées, politisées, font que les gens ne sont pas bien accueillis, sont mal vus. Il y a une vraie période d'errance quand ils arrivent. L'exemple dans les pays limitrophes, aux pays en conflit, c'est que bah, les gens sont mis tous au même endroit, dans des tentes, pour faciliter l'accès, notamment des ONG, des peu de personnes qui vont venir en fait œuvrer à leur côté. Et enfin, et dans les pays européens, l'errance, c'est parce que quand les personnes arrivent, elles arrivent à la rue, en fait. Et ça, c'est d'une violence extrême, la solitude. Enfin, que ça engrange aussi, quoi. Et selon moi, il y a aussi quelque chose qui est pas assez soulevé, les difficultés ensuite d'accès aux droits, d'accès aux soins. Tout le parcours est violent. L'accès aux droits, c'est un combat. L'accès aux soins, c'est un combat. Peu importe le pays d'accueil, les personnes déplacées, qu'elles demandent l'asile ou non, elles n'ont pas les mêmes droits que les autres. Vrai sujet, pardon, mais dans l'imaginaire des gens, quand les personnes arrivent, elles viennent, elles ont tous les droits, elles volent les aides sociales, le travail. Non, en fait, les gens arrivent, ils n'ont pas les droits, les mêmes droits que tout le monde. Et c'est valable dans beaucoup de pays où, par rapport aux natifs, les droits vont être différents. Et c'est le cas en Europe aussi, sur l'accès à la sécurité sociale, l'accès aux aides, évidemment, qui n'existent pas à l'arrivée des personnes. Et il y a déjà un premier combat, du coup, qui arrive à ce moment-là, avoir accès à la santé. C'est un privilège dans ces moments-là. Et ça aussi, je pense que c'est violent, parce que du coup, quand les personnes arrivent, je pense qu'elles ont, à la base, elles attendent de pouvoir souffler un peu après toutes les violences qu'elles ont subies pour en arriver jusqu'ici. Et en fait, c'est pas le cas. On peut pas souffler. Parce qu'il y a une nouvelle lutte qui commence. Et ça, personne s'y attend. Et parce qu'il y a besoin d'espoir, de plus d'espoir que ça, je pense. Et c'est normal. Et la plus grosse violence, mais ça, c'est vraiment quelque chose de personnel. C'est vraiment un constat. Et une question que moi, je me suis posée à force d'accompagner des personnes issues de la migration, des personnes déplacées, c'est se souvenir qui on est dans tout ça. Parce que, donc, on part de chez soi, on quitte tout ce qui nous construit, tout ce qui fait la personne qu'on est. Et puis, parfois, on a affaire, donc, on passe par des passeurs. Des fois, il faut prendre un passeport d'emprunt, donc une identité qui n'est pas la nôtre pour passer. Très bien. Et puis, parfois, on a dû Du coup, il y a des personnes qui sont parties parce qu'elles étaient maltraitées et que leur survie, c'était parce qu'elles n'étaient pas acceptées telles qu'elles étaient. Peu importe la raison. Mais du coup, déjà, juste le fait d'être leur personne, c'est une raison de partir, un motif de violence. Et puis après, ils arrivent dans un autre pays. Et puis, dans l'autre pays, le leitmotiv de tous les pays, notamment les pays européens, c'est l'intégration. Il faut s'intégrer. Alors, grande question de l'intégration, ok. Est-ce que l'intégration, c'est d'abandonner tout ce qui faisait ce qu'on était avant? C'est une vraie question. Parce que ça devient une concession, je pense, à arriver à un certain degré d'intégration, selon ce qui est demandé. Je pense qu'il y a une différence entre intégration et devoir devenir quelqu'un d'autre pour convenir à un système et à un pays. Les systèmes, en tout cas européens, notamment dans la demande d'asile, c'est que tu arrives et il faut prouver qui t'es. Voilà, tu dois prouver qui t'es. Moi, pour le coup, j'ai travaillé aussi sur un dispositif de mineurs non accompagnés à la rue. Et très surprise, c'était la première fois que je travaillais avec les mineurs non accompagnés. Et que fut ma surprise quand j'arrive sur ce dispositif et qu'en fait, je n'accompagne que des jeunes qui sont en recours de minorité parce que, en gros, ils se sont présentés en disant qu'ils étaient mineurs, mais on les a pas crus. Moi, je me suis dit, mais attends, bon, on m'a jamais. Enfin, moi, si on m'avait posé la question, si j'avais dit je suis mineur,
Oui, il
ok,
n'aurait pas eu la
personne ne m'a
même.
demandé de prouver ça. Enfin, tu vois, c'est genre, est-ce que quelqu'un t'a déjà demandé. Enfin, t'arrives, même si t'arrives avec un acte de naissance, tu montres ton acte de naissance, est-ce que quelqu'un t'a déjà dit non, je te crois pas, tu vois?
Oui, de remettre en cause cet aspect-là.
Voilà. Et du coup, pour ces jeunes, tout un parcours. Et en plus, judiciaire, du coup, pour prouver que tu as 18 ans ou moins de 18 ans, parce que quelqu'un a estimé, à vue d'œil, que tu les avais pas. Parce que c'est ça, tu vois, à vue d'œil, tu ne les as pas. Je me dis tout le temps, enfin, quelle violence c'est, tu vois, de devoir prouver qui tu es. Et puis après, plus tard, si tu demandes l'asile, tu vas devoir te présenter à quelqu'un, lui raconter ton histoire. Il va te poser des questions. Déjà, tu dois raconter toute ton histoire, comme ça, voilà. Et ensuite, il va émettre un jugement sur cette histoire qui est la tienne. J'ai vu tellement de décisions qui disaient c'était tellement imprécis, que c'était peu crédible. Et en fait, à cet instant-là, il y a quelqu'un qui est venu juger ton histoire et dire que franchement, non, soit qu'il n'y croyait pas, soit que franchement, c'était pas suffisant. Une histoire qui a déjà été d'une violence extrême, tu vois.
Ça vient rajouter
Et moi, je me dis, mais à ce moment... Ouais, mais à ce moment-là, et je me dis, tu vois, après tout ça, là, mais qui t'es? Enfin, tu vois, est-ce que tu arrives tout le temps à te souvenir qui t'es? Parce que tout le monde remet en question ça, en fait. Et je
Mais
pense que ça, enfin, après, c'est vraiment, hein, moi, quand je me pose cette question et quand je réfléchis à tout ce que j'ai vu par rapport à ça, et je me dis, mais comment ils font pour se souvenir qui ils sont? Et ça doit être tellement violent. Ça doit être tellement violent.
Bah, je te rejoins totalement. C'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est une remise en question constamment de la part des autres, de son parcours, de son histoire, des subsides que l'on a pu avoir vécu, en plus de la violence du parcours migratoire, du fait d'être déraciné, d'avoir subi également des violences dans son pays d'origine. Et c'est vrai que oui, derrière ces chiffres, comme tu l'as dit, il y a des êtres humains, il y a des histoires, il y a des choses qui sont là et qui font que c'est vrai, c'est d'une violence. Je te rejoins totalement, encore plus toi qui es dans ce domaine-là, qui vois ces violences-là, qui les a vues au quotidien dans le cadre de ton travail. Et du coup, pour reprendre un peu tout ça au niveau des facteurs qui sont à l'origine des déplacements forcés et des enjeux et des difficultés vécues par les personnes déplacées, en tant qu'ONG ou en tant que travailleur humanitaire, à quels enjeux tu peux faire face au niveau de la gestion et de l'accompagnement de ces personnes déplacées, mais aussi quels sont les défis que tu peux rencontrer sur le terrain, comme tu as pu par exemple citer là avec cette remise en question constamment, enfin accompagner des personnes dont le récit est constamment remis en question par exemple.
Le triste constat qu'on peut en faire aujourd'hui, c'est que sans les ONG, sans les associations, parce que je mets aussi, il y a plein d'associations aussi engagées avec des professionnels qui le font aussi, mais sans les ONG et sans ces associations-là, mais ces personnes, elles sont livrées à elles-mêmes, et mais elles sont livrées à elles-mêmes sur tous les principes de base de l'humanité. l'accès à l'alimentation, l'accès aux soins, sans aller jusqu'aux soins psychiques, tu vois, pour lesquels elles œuvrent également, mais sans ça, il se passe rien. Il y a, si tu veux, parle, enfin, il y a un tas de pays, par exemple, enfin, sur les camps de réfugiés qui sont aux frontières avec d'autres pays, notamment en conflit, etc. C'est des milliers de personnes qui sont présentes. Il y a certains camps de réfugiés qui sont là depuis des dizaines d'années et qui ont du coup depuis été complètement abandonnés par les États parce que pour un tas de raisons, pour un tas de raisons qui peuvent être financières mais qui peuvent être aussi politiques parce que c'est pas un choix d'investir là-dedans. Et du coup, il n'y a plus que les ONG qui sont présents. Donc l'enjeu, il est la survie des gens. Enfin, tu vois, c'est un enjeu primaire déjà pour commencer. Après, l'enjeu des ONG est d'être 100 pour, enfin, pour une très grande partie, d'être 100% privé. Mais il faut toujours travailler malgré tout avec les États dans lesquels tu interviens. Et on le voit aujourd'hui, il y a certains États qui ferment de plus en plus quand même leurs portes aux humanitaires, pour qui c'est devenu compliqué d'agir au sein de ces pays-là. Ça rajoute une difficulté. Quand les pays ne veulent plus travailler avec les ONG, l'accès est restreint, la marge de manœuvre, elle se réduit de plus en plus. Donc, autant que les ONG ont envie de s'investir, elles vont avoir une limite qui va être celle de l'accessibilité du fait quand même de l'état dans lequel elles interviennent. Et je pense que ça, c'est un enjeu énorme et qui est au cœur de l'actualité parce que le travail humanitaire, il est de plus en plus compromis de ce fait-là aussi. Avant, les ONG, c'était quand même les ONG viennent quand même substituer à des manquements de l'État et c'était quand même c'était ça, et les États étaient ravis de se reposer sur les ONG et le sont toujours dans certains pays. Aujourd'hui, les ONG ont aussi forcé peut-être davantage leur plaidoyer parce que c'est indispensable en fait de mettre en lumière tout ce qui se passe. Et du coup, enfin, il y a quand même des pays qui du coup rendent plus difficile l'accès. Et je pense que c'est un vrai enjeu aussi du coup d'être engagé auprès de ces populations, de répondre aux besoins primaires. Ça demande un investissement financier aux ONG, un investissement humain, parce que des ressources humaines qui sont épuisables, des matériaux, ça demande énormément de ressources. Et qu'à un moment donné, dans ces ressources, il y a toujours un biais étatique qui est à prendre en compte. Parce que quand bien même il n'y a pas de financement public, il y a quand même soumission à autorisation d'accès à des zones, à des camps notamment aussi, et que c'est un enjeu, ça.
Bah,
Et
merci.
après, il y a aussi, bah là, je pense actuellement, la multiplication des crises sévères qui va être Soudan, Congo, Palestine, qui sont des crises du coup majeures, et il y en a d'autres, évidemment, parce que les endroits où il y avait de la famine, ça s'est pas arrêté. Mais en fait, du coup, cette multiplication, ça demande des ressources beaucoup plus conséquentes. Et on n'est pas sans savoir que ben il y a aussi des financements qui ont été suspendus pour un tas d'ONG, et que du coup, c'est demander plus de ressources avec moins de moyens financiers. À terme, ça va être un enjeu majeur des interventions.
Bah, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre avec autant de détails à cette question, Laurie. Et tu as parlé un peu de la collaboration, du fait de devoir collaborer malgré tout avec les institutions publiques et en quoi cette collaboration est nécessaire malgré le fait que parfois elle peut être rendue difficile.
C'est indispensable parce que l'objectif reste quand même de. Parce que l'objectif premier n'est pas de se substituer aux États, en fait. L'objectif premier n'était pas celui-ci. L'objectif des ONG était de soutenir, en fait, de venir renforcer, soutenir des systèmes. À la base, c'est quand même ça l'idée, et pas de venir se substituer et de faire que l'État ne doit pas se désengager, en fait, auprès de ces causes, quelles qu'elles soient. Là, même si on sort de la crise migratoire, les États ne doivent pas se désengager auprès de tous les publics vulnérables auprès desquels les ONG sont. Elles doivent s'investir ensemble. Et c'est là qu'il faut absolument fonctionner avec les États, c'est faire en sorte qu'elles ne deviennent justement pas un frein. Parce que si on ne fonctionne pas avec les États et avec les locaux, en effet, on n'est plus les bienvenus et ça ne fonctionne pas. Et si on n'est plus les bienvenus, ça rend la mission encore plus difficile. Et l'aide, elle doit aussi venir de l'interne. C'est évident, ça peut pas. Sinon, ça ne pourra pas être réglé. Ça ne peut pas être un problème. C'est un problème, du coup, qui dure pendant des années. Et on a, je pense, un bon exemple de ça. C'est les camps de réfugiés syriens au Liban, qui sont là depuis des dizaines d'années. Voilà, des dizaines d'années. Et qui sont comme un espèce de statu quo, où, avec le temps, et etc., l'État s'investit moins, de moins en moins. Et du coup, ça ne fonctionne plus. Ça fonctionne plus, ça reste comme ça, à l'abandon. Les ONG, elles sont aussi arrivées à un moment donné où se pose la question de se désengager dans certains endroits, puisque c'est censé être des aides ponctuelles et pas des aides qui durent tout le temps, puisque justement, l'idée, c'est de trouver des compromis, de pouvoir agir avec les politiques publiques pour que des choses soient mises en place, pour que les situations, elles évoluent, pas qu'elles restent telles quelles. Si tu vois, c'est là que c'est important de travailler avec les associations locales, parce qu'elles peuvent devenir, elles aussi, un renfort aux ONG internationales. Et elles peuvent aussi avoir une influence sur tout ce qui va être les politiques publiques. Il faut jamais travailler tout seul. On ne peut pas travailler tout seul de toute façon. Et ça desservira forcément les populations desquelles on intervient. Et on le voit aujourd'hui. Quand les États ferment les portes, c'est un choix politique. C'est un vrai choix politique. C'est un vrai positionnement de ne pas vouloir travailler et de ne pas vouloir laisser accès aux humanitaires. C'est une stratégie même.
D'accord.
Et c'est une stratégie de... Enfin, alors ça c'est personnel, les mots que je vais choisir, d'abandon ou de nuire, en fonction.
Oui, mais je te rejoins sur ces mots utilisés.
Donc ça a toute son importance. Et puis les États, parce que voilà, c'est indispensable. Il y a les locaux, les associations locales, les locaux en général, ils sont pleins de ressources et pleins de compétences à apporter. Et puis il doit y avoir quelque chose qui se crée au sein même des populations, si on veut que, en effet, ça puisse évoluer en interne, et que les ONG, elles ne doivent pas être indispensables. Elles sont censées, à un moment donné, pouvoir repartir parce que ça s'est stabilisé, parce que justement, il y a des relais et que les associations locales, et que les ONG se sont assurées que les associations locales, elles pouvaient fonctionner. Enfin, il y a tellement de ressources internes que c'est ça aussi l'idée, c'est de les faire fonctionner. Il y a tellement de ressources, de compétences, d'humains, de plein de choses. Et c'est indispensable de mettre ça en avant, de le valoriser, de coordonner, parce que souvent c'est ça l'enjeu, de coordonner tout ça.
Laurie, merci beaucoup encore pour cette explication très détaillée, pour avoir insisté sur cette nécessité de travailler en collaboration avec d'autres structures, dont les autorités. Et pour conclure, quel message souhaiterais-tu adresser au grand public concernant le travail des humanitaires et concernant la réalité, en fait, des déplacements forcés de cette crise migratoire?
Ce que je voudrais dire sur la crise migratoire, c'est ce qui devrait le plus nous importer, c'est la crise migratoire, pas sur le volet politique, en fait. Il faut s'intéresser à la crise migratoire, de pourquoi tous ces gens sont obligés de se déplacer et dans quelles conditions ils le font. Ça devrait être ça que chacun met derrière la crise migratoire, et que quand on entend le mot crise migratoire, la première pensée, ça ne vienne pas du fait de « Oh, il y a plein d'étrangers qui arrivent chez nous », de « Oh, C'est un investissement financier que pourquoi on devrait investir là-dessus alors que nous on a nos propres problématiques? Ça devrait pas être ça la première pensée. La première pensée sur la crise migratoire, ça devrait être mais toutes ces personnes qui se déplacent, pourquoi en 2026 il y a encore autant de gens qui sont obligés de fuir leur pays dans des conditions déplorables? Je pense que ça devrait être la première pensée de questionner le monde, pourquoi les gens sont obligés de se déplacer. Et de dans quelles conditions? Dans quelles conditions est-ce que ça implique? Et je pense que j'aimerais vraiment, moi foncièrement, que ce soit la première chose à laquelle les gens pensent quand ils pensent à ça, au déplacement, à de ce que ça implique pour les gens, de la quantité de personnes que ça concerne, et le fait que cette crise, elle est majoritairement interne aux pays africains, au Moyen-Orient et même en Asie, qu'elle est majoritairement interne et que les flux les plus importants sont là-bas et pas chez nous. Voilà, je pense que c'est ce que j'aimerais que les gens pensent en premier. Et après, ben oui, j'aimerais que les gens aussi se disent peut-être que c'est très politisé, que c'est très utilisé, que en effet, passer son temps de montrer les camps. En fait, j'aimerais que les gens, quand ils voient les camps, parce qu'il faut pas, surtout pas arrêter de les montrer. C'était pas du tout ça l'idée, évidemment. L'idée, c'est il faut continuer de les montrer parce que les gens doivent voir dans quelles conditions vivent les gens. Mais que les gens se disent, mais waouh, quelles conditions, encore une fois. Et pas juste les partis politiques, la politique utilise ces images des naufrages, notamment des traversées, je pense à Calais, ou des traversées dans la montagne. C'est ça le problème. Le problème, c'est ça. C'est pas tous ces gens qui sont là, c'est pas tous les moyens déployés pour arrêter les traverser le sujet. Le sujet, c'est il y a des gens qui risquent leur vie pour aller traverser. Il y a des gens qui traversent les montagnes pour traverser. Et on déploie des forces de l'ordre pour ça, parce que c'est comme ça qu'on traite les déplacements humains, notamment en France. Je voudrais que les gens réfléchissent comme ça. En fait, non, le problème, c'est les gens traversent au péril de leur vie. C'est dramatique. Pas combien ça coûte. Voilà. Personnellement, je voudrais que ce soit ça.
Laurie, merci beaucoup
Pour les
d'avoir.
travailleurs, par contre, j'ai un autre avis. Excuse-moi.
D'accord. Non, pas de souci, je t'écoute.
Mais concernant toutes ces personnes qui travaillent auprès des personnes réfugiées, franchement, l'enjeu, c'est de ne pas s'épuiser. Je pense que ce soit en France ou sur les terrains, que ce soit dans les petites assos en tant que travailleur social ou en tant que travailleur humanitaire à l'étranger, c'est de ne pas s'épuiser en fait. Parce que je pense qu'il y a des très longues périodes que j'appellerais des traversées du désert où est-ce qu'on se sent seul au monde dans l'accompagnement et la prise en charge des personnes déplacées, de la confrontation tout le temps aux dysfonctionnements, notamment des systèmes, c'est épuisant. Parfois, et puis qu'il y a des vrais sujets de travailleurs humanitaires dans ces zones aussi, sur le risque que tu prends de nos jours d'être travailleur humanitaire. C'est un vrai sujet sur le risque sécuritaire. Et je pense que c'est indispensable. Toutes ces personnes, elles sont indispensables et elles font un travail merveilleux, sincèrement. Mais que autant que la santé mentale des personnes déplacée, elle doit être mise aussi au devant de la scène et autant, je pense, la santé mentale des travailleurs auprès de ces publics doit être mise au devant de la scène aussi pour tout le temps être sur des terrains où les conditions sont déplorables, d'être confronté toujours à ça, de, en effet, toutes les violences, les détresses humaines et tout ce qui est cet enjeu de porte fermée à laquelle on est tout le temps confronté, cette absence de moyens sur laquelle tu es régulièrement confronté. C'est vraiment cette patience et cette énergie qui est mise, qui parfois est vraiment mise à très très rude épreuve.
Laurie,
Voilà.
je te remercie une nouvelle fois d'avoir donné de ton temps pour partager ton expertise et pour parler de ce sujet et surtout pour avoir rappelé que derrière ces chiffres, derrière ces données, il y a des histoires, il y a des êtres humains qui doivent être accompagnés, qui doivent être protégés, mais surtout pris en compte.
Je te remercie, Asma, parce que je trouve ça vraiment super de pouvoir laisser de l'espace à ça, justement. De, pour une fois aussi, pouvoir mettre en avant les humains et pas juste les chiffres. Je trouve ça vraiment bien. Donc, merci beaucoup pour tout ça et pour tout le travail que tu fais autour de ça.
Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, rendez-vous sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur le site Paroles d'Humanitaire pour en découvrir d'autres. Et n'hésitez pas à soutenir cette initiative en la partageant autour de vous. Retrouvez l'ensemble des notes de ce podcast sous forme d'articles sur le site Paroles d'Humanitaire. Pour aller plus loin, si vous souhaitez en savoir plus sur l'invité de cet épisode, n'hésitez pas à consulter les liens mis en avant dans l'article. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée à vous, où que vous soyez.